On est Sébastien Duhamel, prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la libre antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et vous avez été nombreux tout au long de la semaine à nous appeler, à nous écrire pour réagir à la politique migratoire du Royaume-Uni, d'autant que les députés ont adopté cette semaine un projet de loi très controversé qui permet d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique. Alors depuis mardi, les appels se multiplient pour demander au Royaume-Uni de renoncer aux expulsions, d'autant que de nombreuses associations de défense des migrants accusent le Rwanda d'être un pays peu sûr pour les demandeurs d'asile. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de nous appeler de la capitale économique ivoirienne. Vous êtes comme beaucoup d'auditeurs vent debout, très en colère contre cette loi adoptée.
Oui, très en colère parce que j'ai dit que la décision du Royaume-Uni d'emmener les migrants illégaux vers le Rwanda est une mauvaise décision. Et cette situation va créer plus de problèmes qu'elle ne va résoudre. Vous voyez, les envoyer vers le Rwanda peut être assimilé dans un premier temps comme une déportation et même considéré comme un moyen pour le Royaume-Uni de fournir la main-d'œuvre au Rwanda. Et cette situation va créer des situations comme des personnes qui se trouvent dans un pays qu'ils ne maîtrisent pas. Des enfants qui vont naître là-bas plus tard vont être considérés comme des apatrides. Et ça va créer un problème qui n'avait pas été prévu.
En même temps, Rishi Sunak, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le Premier ministre britannique, lui, il n'en démord pas. La loi a été adoptée. Il a déjà annoncé que les premiers avions décolleront dès cet été, dès le mois de juillet. Et lui-même a dit ses propos. Aucune cour étrangère ne nous empêchera de faire décoller les avions.
Non, mais Monsieur Juan, moi, je souhaiterais que l'OIM puisse se saisir de cette situation-là, parce que s'ils ne sont pas d'accord que les migrants soient au Royaume-Uni, oui, qu'ils puissent les ramener. Parce que quand vous prenez les migrants, vous avez trois types de migrants. Vous avez les migrants économiques, les migrants qui sont là à cause du pétrole, des changements climatiques, et puis il y a des demandeurs d'asile, comme ils ont prévu un portefeuille pour pouvoir les assister. Mais les deux types de migrants, climatiques et économiques, quand on les forme et qu'on leur met des fonds à disposition pour qu'ils puissent retourner dans leur pays.
Oui, bon, il s'agit, je tiens à le préciser sous les bannes, des demandeurs d'asile. On a reçu beaucoup de questions. D'ailleurs, je vous l'annonce dès maintenant. Lundi, on prendra le temps de répondre à vos nombreuses questions. On sera autour de la table plusieurs pour vous éclairer, vous permettre de comprendre concrètement les répercussions et le contenu de cette loi adoptée cette semaine. Sidi, vous êtes à Londres. Bonjour.
Juan.
Dans quel état d'esprit êtes-vous après l'adoption donc de ce projet de loi ?
Attristé d'apprendre que ce loi a été votée en douceur, puisqu'on ne s'y attendait pas. Moi, si je peux me permettre, aujourd'hui, je discute avec mes collègues et des amis. Pour la plupart, le problème des Britanniques, c'est plus en fait l'inflation, le coût de la vie, très cher. Et vous savez, après le Brexit, le gouvernement avait promis une vie rose, belle et tout. Donc on se rend compte que l'État est de plus en plus isolé, notamment au niveau politique.
Oui, mais j'entends vos propos, Sidi. Vous êtes mieux placé que moi, évidemment, pour en parler. Vous êtes sur place, à Londres. Vous dites que la préoccupation principale des Britanniques, c'est l'inflation, certes, mais c'est aussi l'arrivée de nombreux bateaux qui traversent clandestinement, illégalement, la Manche. Et les 3-4 derniers premiers ministres qui se sont succédés en Grande-Bretagne avaient comme priorité de mettre fin, justement, à l'immigration irrégulière.
Oui, certes, mais ça, je dis en fait que ce n'est pas la raison principale de leur préoccupation aujourd'hui. Et effectivement, les gens, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi, notamment, on accuse un peu la France d'être un peu complice ici. Ils disent qu'ils ont été payés et que la France n'est pas beaucoup pour les obtenir. Mais si vous parlez de cette décision, de 300 millions de pounds sterling pour à peu près 400 à 500 immigrés par année. Donc le coût par immigré, ça devient très cher.
Oui, c'est très cher. Et d'ailleurs, beaucoup s'interrogent jusqu'à quand le Royaume-Uni pourra financer ce programme, puisqu'en contrepartie, le Rwanda percevra une aide conséquente, une aide financière. Sidi, le réseau se dégradait. Malheureusement, on a peut-être une liaison Internet et le réseau se dégradait. Merci en tout cas de nous écouter à Londres. Je remercie évidemment Souleymane qui nous appelait de Côte d'Ivoire. Et on aura l'occasion, évidemment, de vous redonner la parole sur ce sujet qui ne vous a pas laissé indifférent. Dans la libre antenne également, le prix du cacao, et notamment en Côte d'Ivoire, vous en a déjà parlé sur RFI, si vous nous écoutez attentivement, vous savez qu'en ce moment, on assiste à une flambée des cours sur le marché international. La tonne se négociait hier, j'ai regardé, à 11 000 dollars, 10 300 euros à la bourse de New York. Le problème, c'est que les cultivateurs ivoiriens ne bénéficient pas de la flambée des cours. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes vous-même cultivateur de cacao et fils de cultivateur et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour nous interpeller sur votre situation et par là même sur celle de tous les cultivateurs dans votre pays.
Oui, mais dans un premier temps, je voulais saluer tout le monde, tous ceux qui sont les auditeurs, tous ceux qui sont à l'écoute, et puis vous remercier particulièrement pour l'occasion que vous nous donnez, et de facto aux producteurs, aux petits producteurs de cacao. Parce que moi, je suis un petit producteur, j'ai 2 hectares, mon papa avait 10 hectares, donc nous sommes des petits producteurs. Et donc, dans un second temps, je voulais rendre aussi hommage à ces petits producteurs, parce qu'ils font un travail formidable qu'on ne reconnaît pas. Oui. Moi, personnellement, je suis un fruit de cela. C'est le cacao qui m'a fait.
Et alors, aujourd'hui, Michel, vous avez l'impression que certains profitent de la flambée des cours et que les petits cultivateurs de Côte d'Ivoire, eux, doivent se contenter des 1000 francs CFA le kilo, des 2,30 euros le kilo?
Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est ce que vous avez résumé. Moi, je suis comptable de formation. On parle de coût de production, coût de revient. Je m'interroge, est-ce que le coût de vente compense le coût de revient du cacao? Ce sont des interrogations que je me donne. Hein. Et ça fait que, je vous dis, le cacao est abandonné actuellement par ces petits producteurs au profit d'autre chose. Parce qu'il y a trop d'intermédiaires dans la filière de cacao. Il y a trop d'intermédiaires. Ce qui fait que quand il y a une plus-value, le petit producteur n'en bénéficie pas. Mais si tout de suite, là, il y a une moins-value, automatiquement, on répercute cela sur le producteur.
Oui, enfin, s'il y a une moins-value, comme vous dites, normalement, certains diront que c'est un avantage, d'autres un inconvénient. Inconvénient en ce moment parce que les cours n'ont jamais été aussi élevés. Mais si les cours chutent, imaginons que si les cours chutent demain et qu'ils soient au plus bas de l'histoire du cacao, les cultivateurs ivoiriens auront un revenu garanti, un revenu de base garanti.
Non, vous dites non.
Le ministre de l'Agriculture qui était dans cette émission il y a 2 semaines et qui répondait à des questions d'auditeurs disait le contraire.
Mais le ministre, lui, il a bien, il dit ça. Moi, je suis à Abidjan, mon champ est à Saint-Fra. Dans mon champ qui est à Saint-Fra, l'année passée, par exemple, on disait que les acheteurs disaient que non, nous, on n'a pas été financés. Donc, comme ils n'ont pas été financés, donc ils n'ont pas l'argent pour payer au prix fixé. Je suis en train de vous dire ce que moi, je vis. Et ce que je vis, c'est ce que les petits producteurs vivent. Vous voyez ?
Je vois. Et en tout cas, on a bien entendu votre mécontentement, Michel. Pour ceux qui n'ont pas écouté le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjouani, je vous invite à le faire. C'était il y a 2 semaines. Vous retrouvez la vidéo sur la page Facebook de l'émission. Vidéo vue plus 1 million de fois. C'est dire l'intérêt que suscite le secteur du cacao, secteur stratégique, bien évidemment, pour la Côte d'Ivoire. La Libre Antenne se poursuit. Il est 10h50 à Paris. Bonjour José.
Bonjour Juan.
À Kinshasa, bonjour. En République démocratique du Congo, vous avez suivi comme tous les Congolais la désignation officielle de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale lors d'une primaire organisée par la majorité parlementaire, l'Union Sacrée. Et vous saluez, vous, cette décision. Vous dites que c'est finalement le meilleur des trois qui postulaient lors de cette primaire.
Je crois que... ce qui s'est passé a traduit évidemment la vérité, la réalité. Vital était le meilleur parmi les trois, parce que nous nous souvenons, quand il était président à l'époque du président Kabila...
Président de l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale sous Kabila, oui.
Voilà, donc il n'a pas terminé son mandat, comme tout le monde le sait. Mais en tout cas, à l'époque, tout le monde avait remarqué le dynamisme qu'il a apporté au niveau de l'Assemblée nationale. Et parmi les trois, je pense que c'est lui qui a quand même le mieux démontré ses capacités managériales. Et je pense que c'était une bonne chose, évidemment. Mmh. On attend aussi beaucoup de choses de lui.
Ouais. Et en même temps, vous savez bien qu'en ce moment, il y a un jeu d'équilibriste qui se joue en République démocratique du Congo. Il faut composer un gouvernement, il faut composer également le bureau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a certes cette expérience, il a déjà été, vous le disiez, au perchoir entre 2006 et 2009. Il était ministre de l'économie dans le gouvernement sortant, mais il est aussi originaire de l'Est du pays. Et c'est important, puisque le président de la République et la première ministre sont de l'Ouest. Donc finalement, Vital Kamerhe, à ce niveau-là, cochait toutes les cases. Et on sait que c'est très important pour un pays comme la RDC que toutes les régions soient représentées dans les instances qui dirigent le pays.
Oui, oui, il faut équilibrer les choses pour éviter de frustration. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça prend beaucoup de temps aussi pour faire un gouvernement. Ouais, donc... Et dans toutes les institutions... Toutes les provinces doivent s'y retrouver.
Ouais, donc, vous dites que ça prend le temps, c'est normal. Vous ne faites pas partie de tous ces impatients qui attendent que la fumée blanche sorte et qu'on connaisse enfin la composition du gouvernement.
Oui, évidemment, tout le monde, comme moi, nous attendons tous que le gouvernement soit institué, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont bloquées. Mmh. On ne saura pas travailler longtemps encore avec... dans cette situation.
Bien sûr, surtout finalement, les attentes de la population sont nombreuses et il y a des dossiers très urgents, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays. José, merci beaucoup. Bon vendredi à Kinshasa et bonne fin de semaine dans la capitale congolaise. Élie nous rejoint. Bonjour Élie.
Bonjour Juan.
Bienvenue Élie, vous êtes à Abidjan. En Côte d'Ivoire, vous nous interpellez, vous, sur la guerre entre Israël et le Hamas, 203e jour de guerre, et vous avez été choqué d'apprendre, comme tout le monde, la découverte ces derniers jours de charniers dans un hôpital de Khan Younes.
C'est exact, Juan. Déjà, moi, le thème, je le conteste, le thème de guerre Israël-Hamas, je le conteste, parce qu'aujourd'hui, il faut noter qu'on n'est plus dans une question de guerre. Et la Cour internationale de justice a parlé quand même d'un risque de génocide. Pour revenir donc à ce charnier qui a été découvert...
La Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prévenir et punir l'incitation au génocide, pour être précis.
Il reconnaît qu'il y a un risque de génocide. Oui. Il reconnaît qu'il y a un risque de génocide. C'est clair, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a dépassé toutes les graduations dans l'horreur avec le massacre qui est en train d'être fait en Mondovision, hein, parce que c'est quand même le premier génocide, à mon avis, du 21e siècle. Et il y a eu 392 corps qui ont été découverts dans un hôpital après le retrait de l'armée israélienne donc, qui occupait un hôpital.
Ouais, le réseau téléphone, Élie, je suis désolé, vraiment, le réseau téléphone n'est pas très très bon. Il y a eu effectivement ces centaines de corps découverts. Après, toute la question est de savoir, et c'est bien qu'on en parle, Élie, c'est de savoir, est-ce que ces corps se trouvaient là avant l'opération de l'armée israélienne?
Ben oui, ils se trouvaient là, forcément.
Avant.
Il se trouvait là. Non, attends, pardon. Les corps ne se trouvaient pas là. C'est après le retrait de l'armée israélienne que les corps ont été découverts. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des enfants là-dedans, dans ces fosses. Il y a des vieillards et il y a des personnes en blouse blanche. Il y a des personnes même qui ont les mains attachées. Et ça, c'est un article du CNN.
Mais franchement, Élie, ne le prenez pas pour de la censure. Mais le réseau téléphone est très mauvais. Et bon, le sujet est tellement sensible et délicat que si on ne peut pas discuter, c'est compliqué. Je prends l'engagement, on est en direct, je prends l'engagement vendredi prochain dans la Libre Antenne. On vous rappelle et vous pourrez vous exprimer. Vous êtes convaincu que ces corps étaient là suite à l'opération de l'armée israélienne. Israël nie être à l'origine justement de ces fosses communes, donc il y a débat, on a entendu l'ONU, l'Union Européenne demander une enquête internationale, donc je prends l'engagement, Élie, et comptez sur moi vendredi prochain, en espérant que la ligne sera meilleure, on vous prendra à l'antenne, parce que là il nous reste 4 minutes, le temps qu'on vous rappelle, etc., ce sera trop court. On nous a appelé également tout au long de la semaine du Togo, et on n'a pas parlé du Togo, les Togo où les députés ont adopté définitivement une nouvelle constitution. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Yohann.
Constitution donne finalement tous les pouvoirs désormais à un président du Conseil des ministres, sorte de super premier ministre dont le mandat ne sera pas limité, et celui qui occupera cette fonction ne sera autre que le chef du parti qui remportera les élections législatives de lundi prochain. Vous êtes vent debout, Pascal, après l'adoption de cette loi.
Oui, on est tombé sous le feu des informations le lendemain, après que cette loi a été votée.
Oui.
Et sincèrement, disons que la population n'est pas du tout contente par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays. Parce que là, ça ne va que faire perdurer la gouvernance du parti au pouvoir sur le Togo.
Oui, mais enfin, excusez-moi, il va y avoir des élections lundi. Pascal, vous le savez, hein, vous êtes sur place. Rien ne dit que le parti présidentiel, Unir, aura forcément la majorité dans la prochaine Assemblée nationale.
Vu ce que nous vivons dans ce pays, on s'attend que quel que soit le cas, quel que soit Alpha, Beta, ça ne va rien changer. Ils seront toujours là-bas. Ce qui est suivi déjà la façon dont les campagnes se déroulent actuellement, sans nul doute que ça ne va rien changer en fait.
Bon, Pascal, le réseau n'est pas bon non plus. Je ne sais pas ce qui se passe en cette fin d'émission, mais voilà, les dieux du téléphone et des télécoms ne nous accompagnent pas. J'espère qu'avec Emeric, ce sera un tout petit peu mieux. Emeric, vous êtes également au Togo, vous êtes à Évalagnon.
Oui, ça, depuis l'Avagnon.
Ah, dans le centre du pays. Vous, en revanche, vous saluez cette nouvelle constitution. Vous dites que c'est une bonne chose.
Mais c'est une très bonne chose. Vous savez, vraiment, en Afrique, la plupart des pays, après les élections présidentielles, c'est toujours des crises. Et donc, je pense que ce nouveau système vient un peu pallier à ce genre de crises pour éviter chaque fois encore les mêmes crises. Donc, je pense que ce nouveau système est bien arrivé.
Parce que le président de la République, je le précise, ne sera plus élu par le peuple, mais par le Parlement. En quoi c'est...
Par le Parlement, juste.
Oui, mais donc, ça veut dire que les élections législatives prennent une toute autre importance Rien n'empêchera la contestation de ces élections.
Bien sûr, rien n'empêcherait. Mais il y a aussi plusieurs raisons. Les raisons économiques sont à être évoquées. Nous connaissons aussi, je pense qu'avec ce nouveau système, il est à noter que le partage de pouvoir serait bien équilibré entre les différents pouvoirs, excusez-moi pour la répétition,
oui.
Et donc pour une meilleure gouvernance, et je crois que c'est salutaire.
Bon, mais en tout cas, le président perd quasiment tous ses pouvoirs, lui, hein, avec la nouvelle
Justement,
constitution.
Il est là à titre honorifique. Hein.
Ouais, et donc ça, c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose. Nous saluons vraiment l'arrivée de cette nouvelle constitution.
Bah voilà, qui est dit. Merci à vous, Émeric, et merci à Pascal. Et merci à vous tous de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à cette émission. On sera de retour lundi matin avec évidemment vos questions à la rédaction. Je vous le disais tout à l'heure, on prendra le temps pour répondre aux nombreuses questions que nous avons reçues après l'adoption mardi de ce projet de loi très controversé au Royaume-Uni qui autorise l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés arrivés illégalement. Et puis en deuxième partie, nous lancerons le débat après ces accusations de la République démocratique du Congo contre Apple, puisque l'État congolais accuse la multinationale américaine d'utiliser des minerais exploités illégalement dans des mines congolaises par des groupes armés. Et ces minerais, ensuite, ils seraient transportés, notamment chez le voisin rwandais, où ils seraient blanchis. On a donc des minerais de sang dans nos téléphones portables, dans nos zones d'ordinateur. Vos réflexions, évidemment, nous intéressent et vous nous dites si vous êtes évidemment surpris par les accusations de l'État congolais. Passez tous une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. À lundi.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.